Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous sommes au studio avec Jacques Merle. Bonjour.
Bonjour.
Alors Jacques Merle, tu es ici pour nous parler de la nuit du 20 janvier, qui sera celle de la lecture. C'est un mouvement national, hein,
oui.
Il me semble.
Oui, ça a été initié l'année dernière. Un petit peu au dernier moment, l'année dernière, du coup, ça n'a pas été énormément suivi, mais j'ai l'impression que cette année, ça a davantage d'impact.
Vous aviez eu un succès relatif quand même l'année dernière pour cette première édition, ou c'était un petit peu intimiste encore ?
Je n'y ai absolument pas participé.
Ah.
Donc, je ne peux pas dire ce qu'il en a été. Tout ce que je sais, c'est que voilà, ils y sont pris un peu sur le tard et que du coup, très peu de médiathèques ont fait quelque chose, puisque c'est vrai que c'est beaucoup à l'attention des médiathèques, bibliothèques, enfin des espaces du livre et de la lecture. Donc, j'avais pas été contacté pour cette édition-là. Donc, ça sera ma première là.
Alors toi-même, tu te proposeras une lecture, c'est à quel endroit ?
C'est à la librairie La Balançoire à Cray.
Très belle librairie d'ailleurs.
Oui, belle librairie et qui fait... C'est ce qui est intéressant avec des libraires comme ça, c'est qu'ils font de vrais choix. Donc ils défendent au-delà du caractère commercial de l'activité. Ils défendent vraiment des auteurs, des écritures, ils prennent des risques... Et c'est vachement agréable d'avoir ça à proximité, dans une toute petite ville, gros village, voilà, ouais, c'est une belle équipe.
Alors, justement, à la Balançoire, c'est là que tu donneras cette lecture d'un ouvrage de Nicolas Gogol,
oui.
Le journal d'un fou.
Oui.
Alors, pourquoi ce texte ?
Alors, en fait, le texte, c'est un texte que la librairie La Balançoire a choisi, parmi une liste de textes qu'on leur a proposés. Ils m'ont contacté pour participer à la nuit de la lecture. On est partenaire avec la librairie La Balançoire sur le festival qu'on a, le festival Voyage au cœur de l'homme. Ils sont partenaires depuis le début du projet, donc on va faire la 9e édition bientôt. Et voilà, ils sont avec nous depuis 9 ans. Donc pour eux, c'était un petit peu une évidence de faire appel à nous dans le cadre de ce projet et d'aller faire une lecture chez eux. Et donc je leur ai proposé un certain nombre de textes, et puis parmi tous ces textes, il y en avait peut-être une dizaine, même un peu plus, je crois, une quinzaine de textes, ils ont choisi celui-là, donc c'est notre choix, mais c'est aussi le leur, c'est-à-dire qu'on fait exprès de proposer toujours plusieurs textes d'auteurs différents, d'écritures différentes, de manière à ce qu'il y ait aussi, que ça parte aussi d'une envie à eux de défendre quelque chose, quoi.
Alors, justement, ce choix alors, de texte, même s'il n'est pas le tien uniquement, c'est pourquoi ?
C'est un texte qu'on avait créé en lecture lors de la 2e édition du festival. C'était donc en 2010. On était sur une thématique qui était à cette époque-là, on était sur la folie, voilà. On était sur la folie qui dévaste, mais aussi la folie qui permet de créer, de partir, dans des univers un peu plus ou moins parallèles, mais qui permettent la créativité, sortir un peu de soi-même, etc. Donc on avait fait un certain nombre de recherches de textes, on était tombé justement sur le journal d'un fou de Gogol, et c'est un texte qui se prête très très bien à la lecture, il a d'ailleurs été adapté au théâtre. Donc c'était l'occasion, justement c'est l'occasion comme ça, quand on propose plusieurs textes et que ceux qui nous accueillent font des choix, ça nous permet de ressortir un texte qu'on n'a pas donné depuis plusieurs années, de se replonger dedans, et ça constitue notre répertoire à la compagnie, et on est toujours content de refaire comme ça des textes qu'on a créés il y a plusieurs années en arrière.
Alors, ce sont des textes qui sont quand même liés au théâtre, puisque tu es comédien aussi.
Oui, oui, oui. Comédien d'abord, oui. Avant voilà. d'être lecteur, c'est un peu plus récent l'activité lecture.
Alors, je n'ai pas lu le journal d'Info, ouais. mais est-ce que c'est un texte de théâtre à l'initial ou alors c'est un texte de littérature qui était adapté au théâtre ?
Non, du tout. C'est un texte vraiment de littérature. C'est une nouvelle qui a été adaptée au théâtre, qui est écrite sous la forme d'un journal intime. Donc, c'est écrit à la première personne. C'est le protagoniste principal qui parle. Donc, sous forme de journal. Et donc ça se prête évidemment à interprétation, à incarnation, d'où l'adaptation au théâtre. L'écriture est très, très vivante. Et pour la lecture à voix haute, c'est bien aussi, même s'il y a toujours cette distance de la lecture, parce que le bouquin est là, parce qu'on lit avec le livre, nous on est très attaché à l'objet. Donc on n'a jamais de photocopie ou de choses reliées, on prend le livre vraiment. Voilà, je trouve que c'est important de montrer l'objet. Et voilà, donc du coup, malgré cette distance-là, ça reste quand même un texte qui permet, alors non pas une incarnation tout à fait comme on pourrait l'avoir au théâtre, parce qu'encore une fois, c'est de la lecture, mais de rajouter du vivant, de rajouter un petit peu d'interprétation, d'aller un petit peu plus loin dans le... de faire un petit peu apparaître le personnage malgré tout. Voilà, ça, c'est un texte qui se prête bien à ça.
Voilà, oui, il y a différents modes de lecture. Hein. Il y a la lecture dite classique et puis celle un peu jouée.
Oui, et puis c'est souvent généré par le texte et par l'écriture. Il y a des écritures qui ne vont pas souffrir une interprétation excessive parce que c'est du récit, justement, c'est écrit à la troisième personne, donc il n'y a pas une identification, il ne peut pas y avoir d'identification par le lecteur vraiment, donc même si on y met de l'émotion, même si on y met du vivant, ça reste quand même une distance supplémentaire encore. Et puis des textes comme ça, qui, écrits à la première personne, sont plus directs, plus bruts comme ça.
Pour cette nuit de la lecture du 20 janvier à Cré, il y aura aussi des ateliers donc, de lecture. Alors, tu peux peut-être nous en parler un peu ?
Oui, alors, ce sont des programmations, des animations qui ne sont pas générées par nous. Donc, nous, on fait l'ouverture de la nuit de la lecture. Donc, c'est très tôt, hein, c'est à 19h15, donc à la librairie La Balançoire. Et après, ça se poursuit à Cré à partir de 20h30 environ, jusqu'à minuit à la médiathèque. Avec, effectivement, un certain nombre de choses qui sont proposées. Il y a un spectacle à 20h30, soupe et lecture. C'est une lectrice avec une cuisinière qui prépare une soupe. Soupe qui sera servie, d'après ce que j'ai compris, aux spectateurs après le spectacle. Donc, c'est préparé pendant la lecture et puis servi ensuite. Il y a des ateliers de lecture à voix haute. Il y a des jeux de société autour de l'écriture. Il y a de la chanson. Il y a une visite des coulisses de la médiathèque. Enfin, voilà, ils ont organisé plein de surprises. Comme ça, surprise, qui n'est pas vraiment une puisque je viens de le dire, mais c'est marqué sur leur programme hein, de toute façon. Mais bon, voilà, il y a des points de suspension qui laissent entendre qu'il y aura encore d'autres choses voilà, pendant 4 heures, donc un peu moins, de 20h30 à minuit.
Il y a aussi des jeux de société, hein, je crois.
Oui, jeux de société autour de l'écriture, de la lecture, du conte. Du racontage, comme ils l'ont appelé, eux.
Et on va peut-être parler un peu de la Musérante aussi. Bientôt, il y aura une nouvelle manifestation en avril, je crois, qui s'intitule... Oui.
Voyage au cœur de l'homme. Donc, ça sera la 9e édition en avril prochain. Vraisemblablement, je dis vraisemblablement parce qu'on est encore en pourparlers avec certaines communes, parce que c'est un festival itinérant dans plusieurs communes sur le secteur du Val-de-Drôme. Il y a encore des incertitudes sur certaines participations, mais ça devrait être les 7, 14 et 21 avril, donc 3 samedis, avec des amonts au festival au mois de mars. C'est quelque chose qu'on a initié il y a 2-3 ans. Et qui consiste en l'accueil d'une lecture par une médiathèque sur le thème donc du festival. Donc on en fera une à Oust, on en fera une à Chabeuil, on en fera une à Cruas.
Ah oui.
Voilà, à Cruas et peut-être aussi Guirengrange. Bon, enfin voilà.
Ça sera l'occasion de façon de revenir pour en parler plus longuement. Comment ça se passe pour créer ? Est-ce qu'il y a un renouvellement un peu culturel, je dirais ? Parce qu'il y a de plus en plus de choses qui s'y font.
C'est vrai, il y a une dynamique qui s'est créée avec les acteurs culturels locaux, les associations, que ce soit en matière de musique, d'art plastique, de théâtre aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de choses. Il y a eu une période où c'était un petit peu éteint, parce que aussi parce que les gens y trouvaient pas forcément leur place non plus, donc allaient faire les choses un peu ailleurs. Et là, ça a tendance à revenir. Alors nous, on n'est pas à Cré, vraiment, on est à Bonnavet, bon, c'est à côté. Mais ça nous arrive assez rarement, finalement, de faire des choses à Cré même. C'est très, très rare. Et là, je suis très content d'avoir cette occasion avec cette lecture à la librairie.
Je voulais savoir, l'utilisation de texte, est-ce qu'il implique aussi une demande d'autorisation pour ces nuits de lecture
Alors, pour la nuit de la lecture elle-même, je ne sais pas trop comment ça se passe, parce que ce n'est pas nous qui nous occupons de ce type de choses. C'est après les structures qui accueillent, qui doivent se charger de faire les déclarations. Après, un auteur comme Gogol, il est dans le domaine public. Hein, le texte a été écrit en 1835, donc voilà.
La traduction.
Après, il y a un traducteur qui peut, une traduction qui peut être plus récente et être soumise à droit SACD. Tout à fait. Mais oui, j'imagine que la nuit de la lecture n'échappe pas à ce truc-là. Je ne sais pas trop. Je sais pas trop. Est-ce qu'il y a une convention dans ce cadre-là avec entre le ministère et la SACD ? Là, je sais pas trop sur ce type de manifestation, mais j'imagine oui qu'il doit y avoir des droits d'auteur. En général, on n'échappe pas à ça.
Ouais, je vais revenir un petit peu sur, même si tu peux pas trop en parler, puisque elle n'a pas l'air d'être très connue, Nadine Desper, hein, qui fera justement cette lecture avec la soupe.
Oui, oui, oui. Je ne la connais pas, personnellement, je ne la connais pas du tout, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne soit pas connue d'ailleurs. Fort possible qu'elle soit connue dans le milieu crétois et que ça m'ait échappé. Bon, on ne peut pas tout connaître et il y a plein de choses qui m'échappent, c'est certain. Mais voilà, j'essaierai peut-être d'aller justement découvrir après la lecture que je ferai si ça n'a pas commencé, si ça ne dérange pas que je me faufile, j'irai certainement à la médiathèque pour voir justement ce que c'est.
On va parler Voyage au cœur de l'homme. Est-ce que vous avez des noms déjà à citer de leur présence lors de ces rencontres ?
Non, pas vraiment. Bon, y a l'équipe de la Muséante voilà, qui est toujours là au complet avec... Avec Nathalie Vidal, qui est la comédienne avec qui on travaille beaucoup, avec Frédéric Espitalier, sans doute. On accueillera, il y a un spectacle de la compagnie qui sera repris, notre triptyque sur Heiner Müller, sur l'auteur allemand Heiner Müller, qu'on reprendra sur cette édition, puisqu'on est sur le thème des grands mythes revisités dans la littérature et le théâtre. Et puis dans les formes artistiques aussi, des gens qui se sont appropriés des mythes classiques, antiques, et qui en ont fait une relecture, une réadaptation pour les mettre au goût du jour et en faire ressortir toute l'essence et puis ce que raconte l'histoire de ces personnages mythiques. Donc on est là-dessus, donc c'est la raison pour laquelle on va reprendre ce triptyque qui est sur le sujet. Et puis on accueillera deux spectacles d'autres compagnies. Pour l'instant, je ne peux pas encore les citer malheureusement parce que les dates n'étant pas encore complètement définies, certaines communes ne s'étant pas encore tout à fait prononcées sur leur participation, je n'ai pas pu encore bloquer les dates avec les compagnies en question. Donc ça va dépendre de leur disponibilité au moment où ça va se concrétiser. Ce qui n'est pas toujours très confortable parce qu'on est déjà au mois de janvier et que ça serait bien que ça se décide assez rapidement. Mais enfin bon, ça devrait être une question de jours, voire de petites semaines. Bon, voilà. Donc voilà, je ne pourrais pas en dire beaucoup plus jusque-là, si ce n'est que par rapport au texte, nous, on va travailler sur le quatrième mur de Serge Chalandon, qui est un magnifique texte. Voilà, dont on fera une adaptation, une lecture, avec la participation d'un artiste plasticien sans doute. J'aimerais bien que ce soit Bastien Joussaume, mais il est pas au courant encore. Il faut que je lui en parle, mais j'aimerais bien faire quelque chose avec lui. Voilà, on travaillera peut-être aussi sur un texte de Margaret Atwood qui a repris le mythe de Pénélope, donc la femme d'Ulysse, et qui en a fait un personnage de femme un peu revendicative, volontaire, sa place de femme, cette attente de l'homme qui est parti, etc. Et c'est un très beau texte qui est sorti cette année ou l'année dernière, voilà, sur lequel on travaillera sans doute et qu'on réadaptera.
Il y a une question que je me pose par rapport à vos choix. Là, vous parlez de Pénélope, mais est-ce que il y a un regain de nous qui s'intéresse à la littérature dite classique, antique, je dirais même, par rapport à la littérature moderne ou contemporaine, hein?
Alors là, en l'occurrence, ce sont des textes contemporains. Alors effectivement, il y a peut-être un regain d'intérêt pour ça. Ce sont des textes contemporains qui prennent pour point de départ à leur écriture, des personnages comme ça de la littérature classique ou antique. Et en fait, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'on a toujours l'impression que ce sont des choses rébarbatives dont on nous parle à l'école, qui n'ont pas grand intérêt aujourd'hui, alors que... elles sont les racines de ce qu'on peut écrire aujourd'hui ou de, enfin voilà, ce sont des personnages fondateurs, des mythes fondateurs dans la littérature et puis dans ce qu'on peut dégager de leur histoire et qui nous racontent des choses qui sont totalement contemporaines et je trouve ça bien de faire revivre ça et de le garder au goût du jour. Beaucoup de choses ont été dites dans ces périodes-là, déjà, dans le théâtre classique, dans le théâtre antique. Et c'est bien de savoir que ça existe, ce qui n'empêche pas d'en faire quelque chose de totalement contemporain, bien sûr.
Voilà, disons que l'humanité était décrite dès cette époque.
Complètement.
Et aujourd'hui, est-ce que ça serait peut-être la multiplication des codes qui font en sorte qu'on ne sait plus trop où naviguer et donc on revient aux sources? Est-ce que c'est un peu cet aspect-là?
Peut-être, oui. Peut-être. Je n'avais pas vu les choses sous cet angle-là, mais il y a peut-être un besoin de se rattacher à des origines, à des racines, au point de départ de certaines choses, de certaines pensées... Oui.
De redécouvrir des chemins.
Oui, c'est ça. Oui, complètement. Et puis se remettre un peu dans des choses un peu profondes, un peu ancrées comme ça, qui font partie, de toute façon, tous ces mythes, toutes ces histoires, elles font partie de notre inconscient collectif et on le sait pas. C'est-à-dire que on fait référence beaucoup à ces choses-là, à ces histoires qui ont été écrites à ce moment-là, sans savoir que c'est une référence à ça. Parce que c'est le point de départ de beaucoup de pensées, de réflexions, et que ouais, c'est important de s'en rappeler, de remettre ça un peu par là. Après, est-ce que c'est lié à une époque? Peut-être, oui.
Et la mythologie, c'est quand même aussi des idées qui ont influencé ces écrivains de l'époque. Mmh. Et je voulais savoir aujourd'hui, est-ce qu'on peut y trouver une équivalence? Parce que quand on regarde même... C'est une remarque personnelle, toute personnelle. C'est que même en voyant Star Wars, est-ce qu'on peut redécouvrir la mythologie, mais avec les moyens d'aujourd'hui, numériques? Mais en même temps, ça manque de profondeur. Tout est pour le regard, uniquement.
Et c'est ça, c'est-à-dire que bah, de toute façon, on est dans une période, qui est une époque qui est très très visuelle. Hein. Très très visuel, très zappé aussi, avec un rythme très particulier, un rythme qui est très vif, où on prend peu le temps de s'attarder sur des détails et des profondeurs de pensée, etc. Parce qu'il n'y a pas le temps, parce qu'il faut, il faut qu'il y ait un rythme comme ça qui amène le spectateur. Voilà, en l'occurrence, parce que vous parliez de Star Wars, bon voilà, il faut, voilà, faut que ça avance. Il faut, et on n'a pas tellement le temps de se poser sur des choses effectivement plus profondes qui peuvent être, être sous-jacentes ou... Donc voilà, on fait beaucoup que, qu'effleurer comme ça une pensée qui pourrait se balader. Ouais. Mais ça, je crois que c'est vraiment lié. C'est lié à l'image, au numérique, à Internet, à tout ce qui va vite. Quoi. On est dans une période où tout va vite. On envoie très vite un SMS. On donne très vite son avis sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Et voilà, on est dans ce truc-là, comme ça, super très speed. Et où même, c'est vrai que ça se traduit aussi là-dedans. C'est-à-dire que on lâche un commentaire sur Twitter ou ailleurs... on ne prend pas le temps vraiment de penser à la profondeur de ce qu'on est en train de raconter. C'est une réaction à chaud. Ce média-là, ce médium nous donne la possibilité de le faire très vite, comme ça, à chaud, sans réfléchir. Boum, boum, on balance des trucs. Et ouais, je crois que tout va un peu dans ce sens, dans une espèce de... Alors, c'est de la spontanéité, mais en même temps, c'est... C'est irréfléchi et quelque part un peu immature, un peu léger, ça manque un peu de profondeur, effectivement. Ouais.
Et puis bon, on est dans une époque du visuel et l'oreille. Louis, alors que devient-elle? Et c'est ça aussi. C'est que même à ce niveau-là du son. L'auditeur ou le spectateur est submergé. Et donc, quelle est la part qui reste à la réflexion ? Par rapport au texte, par rapport à une idée, par rapport à une scène ou une situation ? Est-ce que on apprend, là c'est compliqué, hein. Ce que je veux dire c'est qu'on parlait du visuel qui est quand même le fer de lance de la communication d'aujourd'hui, hein. C'est ça, c'est que même les tweets on peut les voir affichés sur un écran, donc on lit, mais ça reste quand même du visuel. L'oreille elle-même, qu'est-ce qu'elle devient dans l'écoute, qu'est-ce que devient l'écoute aujourd'hui?
Eh bien, justement, c'est par des actions comme ça, faire des lectures à voix haute, c'est aussi inviter les gens à oublier ce qui peut... Alors, même s'il y a un lecteur qu'on regarde, effectivement, il se passe quelque chose. Mais enfin, on est très loin de l'univers hautement visuel, effectivement, du numérique et de tout ça. Mais oui, c'est les inviter, justement, à se poser, à écouter, à seulement écouter, et à se concentrer longtemps sur quelque chose en écoute, et sur du texte donc. Et ça c'est assez difficile, et c'est quelque chose auquel on se confronte beaucoup et contre lequel on lutte, c'est la durée. Il y a quelque chose qui est, ça va avec ce que je disais tout à l'heure, ce côté zapping, il faut que ça aille vite. Se poser sur une lecture qui dure 1h15, 1h20, nous on est allé des fois jusqu'à 1h30, 1h40 de lecture, sans pause. Alors une fois que les personnes sont là, il n'y a pas de problème, après c'est à nous d'arriver à les capter, à les tenir avec ça. Mais dans l'idée d'aller écouter pendant 1h15, 1h20 ou plus un lecteur, c'est un truc qui pour beaucoup de personnes est inimaginable. Et à tel point qu'on a quelquefois des rendez-vous avec des acteurs culturels qui nous proposent de venir pour faire une lecture en un. Et la question c'est, alors, combien de temps ça dure? Et quand j'annonce quelquefois la durée, on me dit, oh là là, mais, non, mais une lecture, ça ne marchera pas si ça fait plus de 45 minutes. Eh bien, on essaie quand même de résister à ça. Et pas chercher à formater justement l'écoute à ce que nous impose justement, à ce que nous imposent les formats, que ce soit télé, des réseaux sociaux, etc. Cette rapidité, ce truc, voilà. Donc, je crois que ça peut passer par là, la résistance auditive et de concentration. Ça, c'est vachement important. C'est de plus en plus difficile, même sur les surtout sur les jeunes générations, d'arriver à les faire se concentrer plus de 20-30 minutes sur quelque chose, voilà, sans pause, sans rien. Ça devient très difficile. Donc, ouais, ça peut être un moyen de lutter contre ça, entre autres. Bloody cops, a bloody king, bloody keep it bloody clean. Bloody chiefs, a bloody swine, bloody draws, a bloody line. A bloody fun and bloody games, a bloody kids in bloody blames. Nowhere to be bloody found, anywhere in Chicken Town. The bloody scene is bloody sad, the bloody news is bloody bad. The bloody weed is bloody turf, the bloody speed is bloody surf. Bloody folks are bloody daft, don't make me bloody laugh. Bloody hurts to look around, everywhere in Chicken Town. Bloody train is bloody late, your bloody way. Bloody lost and bloody found, stuck in fucking Chicken Town.
Comment se porte-t-elle ?
Eh bien, écoutez, elle va pas si mal, ma foi. Elle va pas si mal. On développe de plus en plus la lecture à voix haute. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de réseaux qui se créent sur la lecture à voix haute, dans les groupements de médiathèques, etc. Voilà, il y a des réseaux qui se créent autour de la lecture publique, la lecture à voix haute. Donc, ça se développe un petit peu, même si chacun a toujours de la difficulté à faire venir du public sur de la lecture. Ça reste quelque chose de quand même assez compliqué, parce qu'on a l'impression que ça va être rasoir, écouter quelqu'un qui va lire. Mais bon, faut pas oublier le vivant, on est quand même dans du vivant. Il y a quelqu'un qui est là, qui est là pour vous tenir et pour vous happer. Donc, il faut oser, il faut le faire. Je pense que bon nombre de personnes ne pensent pas qu'ils peuvent être séduits par ça. Il faut juste faire l'essai, au moins une fois, déjà. Donc voilà, ça se développe quand même. Donc notre activité est beaucoup axée là-dessus. Après, on a toujours l'activité théâtre, qui est notre activité première. Même si ce n'est pas la plus visible, malheureusement. On est sur des formes qui sont un petit peu difficiles à diffuser parce qu'on est sur des formes qui ne sont pas forcément des formes classiques, qui demandent des espaces modulables.
C'est de la recherche, c'est de l'expérimentation ?
Oui, c'est de l'expérimentation, tout en restant sur des sujets concrets. On est toujours sur le texte d'auteur, même dans le théâtre. Nos créations théâtre sont toujours axées sur le texte d'auteur. Et par contre, on est sur la recherche de comment adresser ces textes. Donc on est en perpétuelle réflexion sur le code de jeu, sur comment on s'adresse avec ces textes à un public. Et ça va varier en fonction des textes. sur la place du public dans le processus de représentation, c'est-à-dire comment on peut inclure le spectateur dans la scénographie globale du spectacle, de manière à ce qu'il soit encore plus proche de nous, au plus près, à ce qu'on puisse les voir, qu'ils ne soient pas perdus dans un trou noir qui est la salle, l'espace réservé aux spectateurs. Mais voilà, on essaie de travailler sur la proximité comme ça. Sur des textes qui sont des fois un peu durs, parce que c'est vrai qu'on défend des textes avec une écriture forte, avec un propos qui n'est pas toujours un propos très léger. Après, nous, on s'amuse à mettre de l'humour là-dedans, à mettre du décalage. Ça peut aller même jusqu'à un jeu qui va vers le grotesque. Et voilà, on essaie de marier tout ça. Donc du coup, voilà, on se retrouve devant des objets qui sont un peu atypiques quelque part. Et plus on est atypique, moins on rentre dans des cases bien définies, plus il est difficile de séduire les programmateurs avec et de les inviter à prendre le risque de vous programmer, parce qu'il y a cette frilosité de « Ah, mais est-ce que le public il va adhérer à ça ? Est-ce qu'il va ?» Voilà. Donc, on reste beaucoup sur des choses plus consensuelles, plus… Bon, ce sont des choix. Donc voilà, on lutte avec ça, on continue à créer de la même manière parce que c'est ce qui nous plaît et que c'est de cette manière-là qu'on a des choses à dire. Donc, on continue… poussé aussi par le public qui vient et qui nous pousse à continuer. C'est vrai que quelquefois, on se dit, bon, peut-être qu'il faut arrêter à un moment donné, je ne sais pas. Et puis, on reçoit toujours à chaque fois qu'on crée dans le cadre du festival, et à chaque fois, des gens prennent la peine de nous envoyer un mail pour nous dire ce qu'ils ont ressenti, comment ils ont vécu la représentation, ils viennent nous voir après le spectacle, on discute avec eux, et ça, c'est le moteur qui fait qu'on continue, parce que ça a vraiment une importance capitale, ces retours-là. Et d'un public totalement lambda, je ne parle pas d'un public érudit, je ne parle pas d'un public qui va au théâtre forcément. Non, ce sont des gens qui, quelquefois, viennent pour la première fois voir du théâtre d'auteur voilà, ils vont en tout cas très très peu et certains sont à l'affût du spectacle de la Muséante qui va arriver parce que ça les excite de savoir. Y a des personnes qui m'ont dit à chaque fois, je me dis mais jusqu'où ils vont aller cette fois-ci, où ils vont nous amener cette fois-ci, et ça c'est génial, c'est super excitant. Donc voilà, donc on continue, on s'accroche et en disant qu'à un moment donné, voilà, on arrivera à faire décoller tout ça autrement.
Il me semble vous avoir reçu, je vous ai reçu il y a deux ans environ, pour une lecture qui avait lieu chez une particulière qui profitait d'une exposition d'œuvres en même temps. Cette idée de la lecture chez le particulier, est-ce que c'est quelque chose qui se développe aussi? Est-ce qu'il y a un établissement de réseau ou de relations qui font que ça puisse se faire?
Oui, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Le théâtre en appartement, ça a toujours existé. Enfin, en tout cas, ça existe depuis un certain nombre d'années. Ça se développe, c'est bien. Et ça permet aussi à certaines personnes d'oser aller voir certaines choses parce que c'est chez quelqu'un qu'ils connaissent ou non, ou ils sont amenés par des connaissances, des amis, etc. Donc ça leur permet d'oser parce qu'ils n'iront pas forcément pousser la porte d'un théâtre. Parce que quelquefois, ils ne s'y sentent pas à leur place pour diverses raisons, parce qu'ils ne se sentent pas assez intelligents, pas assez érudits, pas assez, pas avoir assez les codes. Etc. Et le fait de démystifier tout ça, de le mettre dans un autre contexte, un peu moins solennel, un peu moins officiel. Voilà, on est dans un appartement, dans une maison, dans un jardin. Non, voilà. Ça permet d'être plus à l'aise pour certaines personnes et du coup ça amène de nouveaux spectateurs et des gens qui s'ouvrent à des formes artistiques vers lesquelles ils n'iraient pas autrement si elles sont programmées dans des lieux trop dédiés à ça parce qu'ils s'y sentent pas chez eux, voilà, simplement. C'est dommage ça d'ailleurs. Beaucoup de personnes se sentent pas chez elles au théâtre, trouve ça terrifiant. Qu'on n'ose pas pousser la porte d'un théâtre parce qu'on a peur de ne pas être assez bien pour aller au théâtre. C'est inimaginable pour moi de constater ça. Mais c'est une réalité.
Il y a beaucoup de lieux culturels ou de structures culturelles qui donnent cette impression à un certain public. Hein. C'est vrai. Justement, par rapport à votre structure, la Muse Errante, est-ce que vous avez d'autres associations ou d'autres compagnies qui opèrent de la même manière et que vous, avec qui vous coopérez au niveau national, par exemple? Ou alors vous êtes dans la région Rhône-Alpes et c'est tout.
Alors moi personnellement non parce que je travaille pas qu'avec la Muse Errante. La Muse Errante c'est ma compagnie, c'est celle avec laquelle je crée mes choses à moi et ça me permet de défendre vraiment ce qui me tient à cœur. Après, mon métier d'acteur, je l'exerce ailleurs avec d'autres compagnies qui sont effectivement dans d'autres régions. Voilà. Après, la Muse Errante elle-même s'exporte un petit peu parfois sur Toulouse, notamment. Dans des villes où il y a des lieux des fois un peu plus alternatifs qui vont prendre des risques autres. Mais il y a des choses qui se dessinent. Voilà, on est en train d'en discuter avec le théâtre de Die, par exemple. J'ai eu un long rendez-vous avec Harold David où on a pu parler du travail qu'on fait et voir un petit peu s'il serait prêt à faire des choses avec nous. C'est quelque chose qui semble tout à fait possible d'ailleurs. Ça reste dans la région Rhône-Alpes, mais bon, voilà, il y a des petites ramifications comme ça qui commencent à émerger ici et là. Et voilà, donc on met un petit peu d'espoir dedans. On est de temps en temps amené, on arrive quand même à sortir un petit peu du territoire et de la région. Voilà, mais ça reste encore très très...
Est-ce que tu as d'autres choses que tu aurais envie de dire par rapport à cette nuit de lecture?
Oui, profitez-en parce que c'est l'occasion d'aller passer une soirée. Je pense que la soirée à la médiathèque, ça va être très sympa. C'est vraiment tout public avec des choses très différentes. Vous allez pouvoir naviguer d'un thème à l'autre, entre les lectures, les chansons, les jeux, bon, tout ça autour de la littérature et de l'écriture, mais ça va être très très simple et très ludique. Et puis donc cette lecture en démarrage que je ferai à la librairie La Balançoire, c'est gratuit, hein, autant que je sache, j'en suis sûr, tout est gratuit. Donc voilà, osez y aller, et puis quitte à repartir au bout d'un moment. Ça c'est un truc, des fois on n'ose pas... se dire, oh là là, je vais être coincé pendant... Pour moi, c'est absolument pas un problème. Quelqu'un peut très bien venir, même s'il est au milieu de la salle ou de l'espace. Si ça ne lui convient pas, si au bout de 20 minutes, une demi-heure, il sent que ça va être un enfer pour lui, sortir, il n'y a aucun souci. On s'en va, il n'y a aucun problème. Là, en l'occurrence, c'est gratuit, donc ils vont profiter. Ça nous arrive très très rarement. Donc, je me dis, voilà... tentez, prenez le risque, tentez.
La lecture ne se fait qu'en intérieur ou elle peut se faire aussi en extérieur?
Ah, elle peut se faire en extérieur, complètement. On en fait beaucoup à l'extérieur. D'ailleurs, la lecture que je ferai à la lecture La Balançoire, à la librairie La Balançoire, pardon, est une lecture qu'on n'a fait jusque-là qu'en extérieur. Je ne l'ai fait que dehors. En général, qui est dans un arbre d'ailleurs. Donc on essaiera justement, on va voir comment c'est possible, mais on va essayer à la librairie de La Balançoire. Alors on va pas faire rentrer un arbre évidemment, en tout cas les branches ne seraient pas assez costauds pour me supporter le cas échéant. Mais on va essayer de retrouver cette configuration de le côté perché, juché, voilà. On verra sur quoi, comment, peut-être que ça ne sera pas possible, enfin on va s'amuser à essayer de trouver quelque chose. Donc voilà, ça sera une première pour celle-là par exemple, de la faire en intérieur. On en fait beaucoup dehors. On fait des lectures balades en plusieurs étapes. On fait un périple où là, on peut facilement fumer une cigarette quand on veut, même pendant, sans aucun problème, évidemment. Ouais.
On va bientôt terminer. Vous avez un site internet
qui est www.muserante.com. Avec bien les deux E, deux R au milieu, c'est MUS2E2RANTE.com. Voilà, mais si on tape Compagnie La Muse Errante sur Google, on tombe tout de suite dessus, en général.
Et là, l'auditeur peut y découvrir ce qui se fera, ce qui se prépare.
Voilà, il peut y découvrir ce qui se prépare, ce qui a été fait jusque-là, comprendre un petit peu la démarche de la compagnie, quel est son, ce qu'elle défend artistiquement. C'est bien d'aller y faire un tour pour nous connaître un petit peu mieux.
Et la nuit de la lecture, dans son organisation, a-t-elle aussi un site internet au niveau de Cré ? Est-ce que c'est la librairie La Balançoire qui se charge de communiquer ?
Alors, la librairie La Balançoire se charge de communiquer, la médiathèque aussi. On apparaît sur leur site et toute la nuit de la lecture apparaît sur le site. Il n'y a pas un site nuit de la lecture, en tout cas sur Cré. Voilà. Chacun fait sa com. Donc, y a une page qui est consacrée sur le site de la médiathèque. Ça doit être sur la page Facebook de la librairie La Balançoire. C'est aussi sur la nôtre, sur notre site, sur le site de La Balançoire. Mais je ne crois pas qu'ils aient un site, La Balançoire. Par contre, ils ont une page Facebook, mais je ne crois pas qu'ils aient de site. Et puis voilà, on va diffuser après l'info, évidemment, à tous nos réseaux, mail, etc.
Eh bien Jacques, merci d'être venu. Donc,
merci, et puis grâce à vous aussi, de pouvoir aussi communiquer sur des événements comme ça.
Voilà, super. Et te souhaitons une bonne soirée.
Merci à vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Interview. Interview.
Okay, the bird.